Souvent fascinante et aux significations très complexes. Pour démêler tout ça ce soir, j'ai avec moi l'historien de l'art Benoît Durand. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel.
Alors merci d'être des nôtres ce soir en studio.
Merci de me recevoir, je suis content de revenir dans les studios de Chiz.
Oui Benoît qui a déjà participé à l'Est de vos empires notamment.
À l'Est de vos empires, ouais, dans ses débuts, on a fait des émissions également là, plus en mode d'été, donc c'est comme ça que je me suis initié à la radio ici à Chiz, donc c'est vraiment plaisir de revenir.
Bon, et Benoît également qui a terminé, tu as terminé ta maîtrise en histoire de l'art l'an passé.
Absolument, ça fait un peu plus d'un an que tout ça a été déposé. Donc,
au début de la pandémie.
Exactement, juste au... j'ai écrit ma conclusion en pandémie. Dans les premières semaines de la pandémie, ça a été l'occasion pour le terminer.
Donc, voilà. Et sinon, tu œuvres maintenant comme enseignant au collégial.
Absolument. Donc, je suis professeur en histoire de l'art là, dans plusieurs cégeps de la région.
Et là, bon, donc pour aller vers justement ce mémoire de maîtrise en histoire de l'art, donc qui porte sur les visages de la folie psalmique au Moyen Âge. Alors, d'où est venu cet intérêt pour l'histoire des images au Moyen Âge?
Oui, en fait, c'est un intérêt qui a vraiment grandi là, tout au long, je te dirais, de mon baccalauréat en histoire de l'art que j'ai fait ici à l'Université Laval. Rapidement, je me suis rendu compte que l'art au Moyen Âge ne répondait pas des mêmes critères là, que la plupart des grands moments de l'histoire de l'art occidental, à savoir qu'à partir de l'Antiquité, puis ensuite à la Renaissance, jusque chez les modernes, on a vraiment misé sur un art qui imite la nature. Puis au Moyen Âge, c'était pas ça. On allait plutôt dans la stylisation au profit du symbole. Plus qu'il y a de la ressemblance, plus qu'il y a de l'aspect réel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu m'accrocher pendant mon bac. Puis je te dirais que mon amour pour l'histoire de l'art médiéval, puis les études médiévales en général, s'est concrétisé à ma troisième année de bac lors d'un voyage d'études en Bourgogne avec celui qui s'est avéré être ensuite mon directeur de maîtrise.
C'est toujours agréable, un voyage d'études en Bourgogne.
Ouais, ça se prenait bien. Puis c'est aussi agréable que tu peux l'imaginer. Donc là, c'était le fun parce qu'on a vraiment pu là, découvrir in situ... oui, bon, des livres enluminés, mais surtout de l'architecture, des monuments romans, gothiques. Puis je te dirais que c'est vraiment là qu'il y a eu un déclic, que je me suis dit, c'est vraiment des images qui répondent d'une logique différente de la nôtre. C'est vraiment comme les pièces d'un casse-tête qu'il faut reconstruire. Donc, il y a quelque chose de très satisfaisant, je te dirais, là aussi, dans l'étude de ces images-là, en raison de ça. C'est un peu comme quand on réussit un problème mathématique lorsqu'on découvre leur sens. Très satisfaisant.
Et pourquoi avoir choisi d'étudier plus particulièrement la folie?
Oui, je te dirais que c'était vraiment là, dans le temps. Je me réinsère il y a 4 ans, quand j'ai décidé ce sujet-là. Je te dirais que c'était vraiment là, dans les renouveaux des discussions dans la sphère publique sur comment on perçoit la folie puis la santé mentale. Je trouvais ça très intéressant. D'ailleurs, moi, à travers l'histoire de l'art, je voulais en arriver surtout à étudier un fait social plus que des images en tant que telles pour ce qu'elles sont. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, je pense que ça pourrait être cohérent. Ça serait très intéressant également de voir comment une autre civilisation, comment l'Occident médiéval considérait la folie versus nous. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Y a-t-il des différences, mais y a-t-il également des similitudes? Ça, puis je te dirais également la lecture d'un texte de Michael Camille qui proposait justement de s'intéresser aux marges et aux marginaux. J'ai pas pris tant cette voie-là, mais ça m'a fait rendre compte que, on pouvait même au Moyen Âge s'intéresser à ceux dont l'histoire n'est pas nécessairement là, dans la norme, mais vraiment plus dans la marge. Fait que c'est ça qui m'a comme donné un peu, là, qui m'a fait consolider ce sujet-là.
Et puis justement, comment on concevait la folie à l'époque? Bon, toi, tu parles d'insensé, c'est dans quel sens?
Oui, peut-être qu'il y a plusieurs manières de concevoir la folie au Moyen Âge, comme aujourd'hui, là, en degrés différents. Lorsqu'on étudie la terminologie qui était utilisée au Moyen Âge, on se rend compte qu'il faisait même des distinctions médicales, comme on le fait aujourd'hui là, sur la santé mentale. On parlait notamment, tout le monde connaît un peu, là, je pars de là, parce que c'est quelque chose de connu, la théorie des quatre humeurs qui va générer des états d'âme en lien avec des dérèglements physiques. Donc, on parle du furieux, du flegmatique, du colérique, notamment. Il y a aussi les simples d'esprit qui étaient présents à l'époque médiévale. On s'imaginera bien le fou du village. Mais ce qui distingue vraiment la folie de l'Occident médiéval de notre folie, c'est qu'on considère, du moins, ou on va considérer ceux qui sont fous comme étant ceux qui sont pas normaux. On considère la normalité à partir de quelqu'un, par exemple, neurotypique, puis ceux qui sont en marge de ça vont être frappés de folie, vont souffrir de problèmes de la santé mentale. Au Moyen Âge, c'est vraiment plus selon des critères de moralité que la folie va se définir. Donc, tout ce qui est moral, évidemment, tourne autour de ce qui est bien, de Dieu. Puis, à partir de là, va se décliner plusieurs types de folie. Là-dedans, peut-être, il y a une chose qu'on pourrait préciser, puis je pense que c'est important de le faire parce qu'à l'époque, il faisait vraiment quand même la différence entre des folies qui sont uniquement là, médicales ou des troubles mentaux, puis des folies qu'on pourrait dire immorales. Donc, par exemple, le fou qui était fou parce qu'il était frappé d'une maladie mentale, il n'était pas considéré comme un pécheur. L'insensé, dont on va parler plus en détail aujourd'hui, lui, oui, de plein fouet, il rentre dans le péché. Donc, c'est vraiment plus comme ça qu'il faut essayer de définir puis d'organiser la folie puis les catégories de la folie médiévale.
Et bon, on imagine qu'il y a quand même un nombre de sources assez important là, pour traiter ce phénomène-là pour une période quand même de 1000 ans. Toi, quelle source tu as choisi? Puis j'imagine, bon, comment tu y as eu accès? Là? Est-ce qu'il y a eu peut-être des fois des défis pour avoir accès à ces documents-là?
Oui, bien en fait, effectivement, j'ai trouvé vraiment une variété de sources. C'est sûr, je m'intéressais aux images. Donc, de trouver des images qui traitent de folie, j'en ai vraiment trouvé là, à la fois parfois sur des monuments, donc par exemple dans des portails romans, dans des portails gothiques surtout, différentes représentations, des fresques aussi à l'intérieur, différentes et peut-être surtout là, des enluminures, c'est ce qu'il y avait de plus. Mais il a fallu que je choisisse. Il a fallu que je choisisse autour de quel type de folie là, j'allais vraiment m'aligner, puis concentrer mes efforts. Puis j'ai décidé d'y aller un peu par la folie qui était peut-être la plus évidente d'un point de vue artistique, notamment par le nombre de représentations qu'on retrouve de ces images-là. Puis c'est ce qui m'a amené à parler de la folie psalmique, donc la folie qu'on retrouve dans les psaumes. T'en as parlé un peu plus tôt. C'est vrai, je me suis intéressé surtout à une image qui est... qui accompagne un psaume, le psaume 52. Puis dans ce psaume-là, le psaume commence par « Dixit incipiens in corde suo, non est Deus ». Bon, c'est juste pour flasher, je ne parle pas latin. ce que ça nous dit ici, c'est que l'insensé dit en son cœur « Dieu n'est pas ». Donc, c'est vraiment une version spécifique de la folie, celle de celui qui a décidé lui-même, dans sa conscience, de refuser l'existence de Dieu. C'est une folie, je vous dirais, qui est double, parce qu'en plus d'être immorale, comme on en a parlé un peu plus, c'est aussi une folie sociale, parce qu'il a refusé Dieu à l'époque médiévale.
C'est impensable.
Premièrement, c'est impensable. C'est comme le péché. Ça relève du péché original, en fait. Mais c'est aussi que refuser Dieu, c'est refuser d'entrer dans l'Église au sens de la communauté des fidèles, puis l'Église est le mortier social de l'époque. Donc, c'est à la fois donc, un non-sens d'un point de vue moral, mais c'est aussi un non-sens d'un point de vue social que de refuser Dieu. Donc, c'est vraiment dans cette lignée-là là, que cet axe-là que j'ai choisi de développer mes recherches sur la folie. Effectivement, j'ai trouvé de très nombreuses images de petits insensés qui accompagnent le psaume 52. Je me suis attaqué vraiment, là, j'étais directement dans les banques d'images. Si j'avais un avantage, c'est parce que ces images-là sont toujours associées à un texte. Donc, oui, il y a quelques traductions, quelques versions, mais de manière générale, c'était assez homogène pour les trouver. Ça a été assez facile. J'ai trouvé au départ plus de 300 images. Puis il a fallu, à partir de là, que je me trouve des critères pour vraiment circonscrire le corpus, le resserrer. Donc, mes critères ont été essentiellement géographiques et temporels. Je me suis intéressé à la France du 13e au 15e siècle. Pourquoi? Parce que c'était là que j'avais vraiment la plus grande quantité. Donc, sur les 300 quelques images, 154 étaient issues de cette période-là. Donc, c'est ce qui me permettait vraiment là, d'avoir un nombre d'images appréciables avec lesquelles j'allais pouvoir aussi jouer un peu, essayer de les regarder sous différents angles. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé vraiment à ce corpus-là. Je te dirais qu'il y a aussi un critère de facilité dans la mesure où je ne pouvais pas me rendre en Europe. Bien, j'ai eu l'occasion de m'y rendre, mais je ne pouvais pas là, aller moi-même voir dans toutes les librairies celles qui étaient là. Donc, c'est sûr que ça devient les images qui ont été numérisées. Donc, déjà là, je suis conscient qu'il y a peut-être de ces images-là qui n'étaient pas là. Mais quand même, avec un corpus de 154 images, ça me permettait quand même là, de questionner ce corpus-là de manière différente et variée, selon moi.
Bien, avant de continuer, on a parlé du psaume 52. On va l'entendre, non pas en latin, mais en allemand. Dès la Réforme, Martin Luther a traduit ce psaume-là en allemand, « Es spricht der Unweisenmund wohl ». Et environ quoi, 2 siècles plus tard, Jean-Sébastien Bach l'a harmonisé à 4 voix. Alors, écoutons cela. Alors voilà, c'est tout beau, n'est-ce pas? Et donc, on vient d'entendre un psaume. Alors, un psautier, bon, c'est un recueil de psaumes, mais à quoi ça sert au Moyen-Âge? Est-ce qu'on lit directement les psaumes lors de l'office là-dedans? Ou?
C'est très intéressant ta question parce qu'il y a un gros... Il y a un questionnement, là, justement, sur l'usage du psautier. Donc, le psautier, comme tu l'as dit, là, c'est le livre dans lequel les psaumes de l'Ancien Testament sont listés de 1 à 150, un à la suite de l'autre. Les psaumes dans la religion catholique, même actuelle, c'est vraiment la base de la prière de l'office, comme tu l'as dit, donc les prières qui vont inclure là, plusieurs fois dans la journée à des heures définies. Et ces prières-là ne sont pas des prières qui sont lues, elles sont généralement chantées et elles sont chantées par cœur. Donc l'usage du psautier dans l'Occident médiéval, on peut se questionner, il servait à quoi? Puisque d'entrée de jeu, les novices, c'est la première chose qu'ils faisaient, ils apprenaient à lire le latin, puis pour apprendre à lire et à lire le latin, ils apprenaient par cœur les psaumes. Donc, on se demande, OK, ces objets-là ne pouvaient pas être vraiment là, utilisés comme des livres pendant, par exemple, l'office des heures, pendant les différentes heures de la journée. Donc, à quoi ils servaient? Deux réponses. Il s'agit en fait là, d'un livre qu'on pourrait dire didactique, même pédagogique, justement parce qu'il était utilisé dans l'apprentissage des novices. L'apprentissage du latin, des psaumes, mais également l'apprentissage de l'exégèse biblique. Donc, c'était un peu le premier contact des clercs avec tout un pan, finalement, le pan intérieur de la conscience collective de l'Église médiévale, si on veut. Le psautier va ensuite, plus tardivement, là, à partir du 11e, 12e siècle surtout et après, va également devenir un livre qui va être possédé par les aristocrates. S'il y a un livre à posséder à l'époque, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il contient justement les chants, parce qu'il contient les prières qu'on va répéter à l'intérieur d'une semaine, à chaque semaine. Donc ça va être vrai jusqu'à environ le 14e siècle où le livre d'heures va détrôner le psautier chez les aristocrates. Mais c'est donc un livre qui est à la fois donc, un livre didactique pour les clercs, puis une espèce d'amulette de statut social pour les aristocrates, comme l'étaient toujours finalement les manuscrits à l'époque.
Puis on imagine qu'avec l'invention de l'imprimerie, ben disons, le psautier reste, mais sous une autre forme. Là.
Absolument. Donc, le psautier va toujours rester, notamment parce que c'est un peu... le psautier, là, le livre des psaumes en tant que tel, c'est un des ingrédients, si je peux dire ça, de nombreux livres. Donc, le psautier, c'est un des livres de la Bible, un des livres de l'Ancien Testament. Donc, on retrouve aussi des psautiers à l'intérieur des Bibles. On va retrouver des psautiers également... on va retrouver des psaumes, pardon, à l'intérieur aussi... des livres d'heures. Toutefois, ils vont être un peu là, réorganisés selon les volontés là, du commanditaire. Puis comme tu l'as dit, bien, l'impression va pas beaucoup changer là, cette logique-là, mais va plutôt changer la logique visuelle de ces psaumes-là, la manière dont ils étaient ornementés, en allant toujours plus vers une ornementation en noir et blanc, mais qui prenait plus d'espace, je te dirais, dans les marges de ces livres d'heures-là.
Et pourquoi des images dans ces psautiers médiévaux?
Oui. Alors, les images dans les psautiers ont un rôle, pas ambigu, mais qu'il faut prendre la peine de le définir. Bien, tout d'abord, la vaste majorité des psautiers n'ont pas d'images dans les psaumes. Lorsqu'il y a des images, généralement, donc il va s'agir on va appeler ça des initiales historiées. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la première lettre du psaume. Par exemple, si on parle du psaume 52, celui de l'insensé, ça commence par Dixit. Donc, on va dessiner, peindre un dé, puis on va faire une représentation à l'intérieur de la lettre.
Comme les lettrines dans le journal, encore aujourd'hui,
oui,
par exemple.
Oui, absolument. Mm-hmm. Ouais, ouais. Donc, voilà. Dans le psautier, on retrouve généralement, lorsqu'on retrouve des initiales historiées, on va les retrouver toujours associées aux huit mêmes psaumes. Donc, ces huit psaumes-là, en fait, sont les psaumes qu'on pourrait dire divisionnels, qui vont venir scander un peu la semaine de prière selon les offices liturgiques. Donc, il y a vraiment un rôle de ces images-là qui est de souligner ou d'organiser le psautier, de hiérarchiser certains psaumes pour marquer où sont les divisions.
Une forme de signet.
Exactement, une forme de signet, même que souvent on va avoir là, quelquefois dans ces psautiers-là, des signets en queue de charte qu'on appelle. Donc, c'est comme si on découpait un peu la page puis on la repliait sur elle-même, comme si on pouvait y accéder facilement. C'est sûr, toutefois, que c'est pas non plus un livre qu'on utilise pour prier. C'est un livre qu'on connaît par cœur. Mm. Donc, c'est pas pour le retrouver rapidement. Du moins, pas chez les clercs. Donc, faut vraiment plus le voir comme une organisation interne. Puis, je pense, une cohérence entre l'objet et l'image de l'objet et, finalement, la liturgie des heures en elle-même. Donc, vraiment créer une cohérence. Un peu comme si les images, là, au même titre qu'une horloge, venaient vraiment scander les lectures à travers la semaine, de vraiment diviser, organiser le psautier comme on organise la prière pendant la semaine.
Et est-ce qu'il y a juste des images dans les initiales ou il y en a ailleurs aussi?
Généralement, il va y avoir uniquement des images dans les initiales, sauf dans quelques cas particuliers, notamment les Bibles historiales. Une Bible historiale, c'est quoi? C'est une Bible, mais traduite en français selon un type de traduction. Là, ce qui est intéressant, c'est que notre psaume ne commence plus par un D. Puis, finalement, dans les Bibles historiales, de plus en plus, on arrive vraiment le plus vers le fin 14e, début 15e siècle. Les enluminures prennent de plus en plus d'espace. Donc là, on va vraiment parler d'enluminure et non pas d'initiale. Donc, on a vraiment un carré entièrement peint, souvent avec un fond réticulé, ces espèces de petits fonds quadrillés ou carottés, si vous voulez. Donc là, les images vont prendre plus d'ampleur puis vont s'affranchir également du texte. Mais de manière générale, à l'intérieur d'un psautier, on va retrouver uniquement de l'enluminure associée vraiment aux lettrines, donc associée à ces initiales des huit psaumes. Puis ce qui n'empêche pas aussi là, d'enjoliver les initiales des autres psaumes. Dans mes recherches, justement, j'ai trouvé certains psautiers dans lesquels les 150 psaumes étaient dotés d'une image. Mais à ce moment-là, les huit psaumes de la division principale avaient des images qui étaient d'ampleur, de plus grande ampleur. Donc, on conservait quand même cette logique là, hiérarchique, organisationnelle, mais dans un autre ordre d'ampleur, je dirais.
Mm. Donc, toi, dans tes sources, je comprends bien, tu avais ces initiales-là principalement dans des psautiers, mais également dans des bibles, dans certains documents.
Ouais. Dans mon corpus, j'ai surtout des psautiers, mais également des bréviaires. Donc, le bréviaire dans lequel on retrouve les psaumes, mais également tout ce qui est nécessaire à ajouter autour des psaumes pour faire fonctionner l'office. Ensuite, des bibles, puis des bibles historiales, qui est essentiellement là, une bible en français là, du 14e, 15e siècle. Mm. Donc, c'était surtout ces types de manuscrits-là. Le psaume 52, en tant que tel, auquel est associée la figure de l'encensé, ne se retrouve pas ou très peu dans les livres d'heures. Donc, voilà.
Mm. Et quel genre d'image on retrouve? Parce qu'on sait que parfois, il y a des... Pour ceux qui ont peut-être déjà vu des manuscrits du Moyen-Âge, on voit des images assez cocasses des fois. Là, est-ce que c'est des images qui sont toujours directement avec le psaume ou il y a quand même une bonne marge de manœuvre là, pour le copiste?
Je te dirais qu'on n'a pas là, des images là, salaces ou scabreuses comme on peut avoir, par exemple, dans les marges à drôlerie. Mais on a vraiment là, des images qui sont plus, je te dirais, normalisées. Peut-être notamment en raison du côté didactique, du côté pédagogique de ce livre-là, donc qui revenait finalement à toujours employer les mêmes images. La plupart du temps, oui, les images, on peut vraiment les associer aux psaumes qu'elles accompagnent, pas toujours de manière directe. La grande vedette du psautier, évidemment, c'est le roi David, parce qu'il en a écrit la plupart. Donc, la plupart des initiales historiées des psautiers vont représenter le roi David, même s'il n'est pas directement mentionné dans le psaume. C'est probablement lui qui l'a écrit de toute façon. Donc, on va vraiment faire la vedette. On peut le voir jouant différents instruments, assis sur son trône, donc dans différentes situations. Parfois, on va même le voir opposé là, face à face avec l'insensé. Mais je te dirais que dans toute la série de huit images dans laquelle l'insensé s'insère, l'insensé est comme la seule image qui, en apparence, est négative. Puisque généralement, ça va être le roi David qui crée cette série-là. Parfois, on va avoir une trinité ou une image de dévotion. Donc, l'insensé est un peu en opposition avec ces images-là qui sont globalement positives ou de personnages positifs, alors que là, on a celui qui dit non, Dieu n'existe pas. Donc, c'est quand même surprenant de lui avoir donné, de lui avoir accordé un de ces huit emplacements-là.
Hmm. Donc, finalement, on dessine, on montre cet insensé-là dans un but d'édification, en quelque sorte.
Oui. Je pense qu'il faut réinsérer ça vraiment dans la logique là, d'opposition. Donc, entre l'insensé, qui est un peu le contre-exemple ou l'antithèse du roi David. Donc, on a le roi David qui, lui, est la personne sensée, plus que saint, presque, prophète, donc qui représente vraiment le côté bénéfique. Puis un peu pour, peut-être par contraste, agrandir encore plus là, l'image de David, on va insérer une figure qui est strictement antithétique, donc celle de l'insensé. Un peu pour souligner quelles sont les limites justement de ce qui est considéré comme moral, montrer par un contre-exemple de David qu'est-ce qui est immoral. Donc je pense que c'est vraiment dans cette logique-là qu'il faut expliquer l'insertion de cet insensé-là à l'intérieur de nos psautiers, à l'intérieur de notre série de psaumes.
Hmm. Et donc, tu dis, sinon on retrouve David, puis c'est pas mal le...
Donc généralement, là, David, des chantres qui vont chanter pour le psaume 109, ou 68, pardon, puis une trinité pour le psaume 109. Mais bon, le psaume 109 parle de « Tu vas t'asseoir à la droite de moi, mon fils ». Donc là, c'est cohérent. Le psaume 108, c'est le chantre dit au... Le chef des chantres dit aux chantres, on va chanter les louanges de Dieu. Donc, on reste toujours quand même dans une logique là, très proche de celle du psaume. Mais à part ça, c'est vraiment l'insensé, puis c'est surprenant, justement, qu'il apparaisse à l'intérieur de ces figures positives. Parfois, à l'intérieur de l'image de l'insensé, toutefois, on peut retrouver d'autres protagonistes. Je l'ai mentionné un peu, l'insensé va pouvoir être placé directement, donc, en opposition avec David. Donc là, ça illustre de manière vraiment là, magistrale. Si on veut, cette opposition-là qui rend l'insensé fonctionnel. Mais parfois, on va voir David accompagné d'un démon, donc là, qui souligne vraiment de manière encore une fois explicite le côté immoral. Puis sinon, une autre figure qui est apparue, pas souvent, je pense, dans seulement 6 images, c'est la figure du chien. J'ai été surpris de ça. Pourquoi un chien? Puis je pense qu'il faut vraiment le voir un peu comme... En fait, souvent, on va voir l'insensé va comme attaquer le chien, soit essayer de l'attaquer avec son gourdin, qui est un de ses attributs, ou même de lui mordre la queue. On le voit vraiment en train de manger la queue. Donc là, je pense qu'il faut vraiment le voir comme étant l'insensé, puisqu'il a refusé Dieu, redescend un petit peu là, au niveau des animaux, puis peut-être même en dessous de certains animaux. Puisque le chien est globalement positif, là, c'est vraiment une figure de loyauté.
Est-ce que c'est comme le meilleur ami de l'homme, comme
exactement.
On dit aujourd'hui?
Donc là, l'insensé est en dessous de ça, il nuit à tout ça, il dérange le chien, il le mord. Donc je pense que c'est vraiment plus la figure du chien, je l'ai trouvé intéressante, parce que je pense que ça permettait de questionner dans ces figures-là la limite entre humanité et animalité dans cette immoralité de l'insensé.
Hmm. Bien, on va aller en pause publicitaire. Et puis avant les publicités, on va entendre encore ce choral luthérien tiré du psaume 52. Mais ici, dans une version pour orgue de Buxtehude, compositeur de l'Allemagne du Nord, joué par l'organiste néerlandais Ton Koopman.
Thank you. Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec. À l'avant-garde!
Chérie J'arrive débarque dans vos oreilles tous les jours de 16h à 17h30 pour vous faire découvrir la scène culturelle et artistique de Québec.
Collabo, chronique, entrevue, tout ce qu'il te faut pour être à l'affût des nouveautés musicales, théâtrales, littéraires, dansées, exposées. Vous voyez ce qu'on veut dire, là? Chérie J'arrive par Gabriel Morissette
et Félix Duchesne en semaine dès 16h à CHIZ 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute CHIZ 94.3.
Saint-Anne, aie pitié de nous. Le Cap Tourmente approche et nous risquons de nous échouer.
Chut! J'écoute 3600 secondes d'histoire. Priez plus tard.
Oui, Sainte-Anne qui nous ramène à ce sujet quelque peu quand même assez catholique sur les psautiers médiévaux. Donc, on parlait donc de cette figure du fou, de l'insensé qui se retrouve notamment, surtout en fait dans le psaume 52. Donc, on a commencé à parler justement de cette figure qui est souvent opposée à celle de David, dans une opposition assez binaire. Donc, dans les 154 images, oui, que tu as recueillies, qu'est-ce qui ressort par rapport à son apparence physique? Bon, on imagine qu'il y a quand même des choses qui reviennent par rapport aux vêtements, les cheveux, la barbe. Là, puis est-ce que ça change avec le temps, tout ça?
Oui, absolument. Il y a comme deux tendances là, qui pourraient être dégagées, puis qui, clairement, on voit l'évolution dans le temps, puis la distinction dans le temps aussi. Les images que j'ai récoltées, mettons, les plus hautes datent de 1200 jusqu'à 1500, donc sur 300 ans. Puis à partir de 350, les choses changent. Mais au départ, notre petit insensé, c'est un petit peu là, une représentation un peu loufoque, presque... Ça, je le trouve attachant, l'insensé du psaume 52. Bon, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Mais donc, on a un petit personnage qui est souvent chauve, rasé. Il va souvent tenir une massue. Souvent, s'il est habillé, des fois, il est nu. On peut même voir avec détail là, qu'il est nu dans certaines représentations. Puis s'il porte des vêtements, c'est pas tant des vêtements qu'une espèce de chemise déchirée. Il n'a jamais de souliers. Donc, il est vraiment représenté comme quelqu'un de non socialisé, non civilisé, quelqu'un qui vivrait vraiment là, presque dans la forêt, qui sort de nulle part. On pourrait même dire que ses vêtements, c'est quasiment plus des anti-vêtements, probablement juste placés là pour essayer d'avoir un semblant de pudeur, mais pas vraiment pour le distinguer socialement. Donc, il s'insère dans aucune de ces logiques-là. Toutefois, c'est intéressant parce qu'on peut quand même faire des liens, notamment entre sa chevelure, donc l'aspect rasé. Tu peux pas être rasé. Il faut que tu te rases. Donc, il y a quand même une action qui est faite pour peut-être se distinguer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même action aussi que les clercs vont faire, donc de se raser de raser la tête. Donc, on voit que ça le réinsère quand même dans certains groupes de parenté. La massue également à l'époque, donc qui est vraiment là, on peut vraiment le voir comme l'opposé de l'épée. Donc, la personne barbare va avoir une massue.
C'est un peu comme les pierres à feu.
Oui, absolument. C'est clair, comme les pierres à feu. Donc, c'est comme l'espèce d'outil là, primaire qui représente peut-être un peu la violence ou la barbarie. Donc, on est vraiment plus dans ce genre de figure-là. Souvent aussi, l'insensé va regarder Dieu là, qui apparaît dans des petits nuages en haut. Donc, il le regarde comme s'il ne comprenait pas ce qui se passe. Bref, il a de l'air un peu nono. Puis, tranquillement, ça va évoluer, notamment avec ses vêtements. Ses vêtements vont s'élaborer. Dans certaines représentations, il porte une toge, donc au même titre que les sages. Donc là encore, on voit qu'il y a des relations qui se font avec des figures, je te dirais, d'autorité morale, justement peut-être pour souligner cette opposition-là.
Est-ce que les autres personnages aussi se précisent en même temps, ou est-ce que c'est juste lui...
Je te dirais que c'est lui qui va avoir la plus grande inversion. Oui, c'est sûr qu'il y a des tendances dans la luminure française. Il y a des manières de représenter. Il y a des manières de représenter les vêtements. Puis ça, si on considère les huit initiales d'un même psaume. Généralement, il y a une homogénéité là-dedans. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que dans le temps, ça avait évolué. Puis à partir de 1350, on se rend compte que l'insensé, alors qu'il était complètement dépouillé, bien, il va commencer à revêtir des vêtements qui sont coupés, qui sont ajustés. On va le voir apparaître avec des manteaux, on va le voir apparaître avec la toge. Il va se mettre à porter des bottes. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'opère dans cette figure-là, alors que c'est vraiment maintenu pour les sept autres figures du psautier. On n'a pas d'évolution là, qui soit aussi marquée. Puis, rapidement, ben, les attributs de l'insensé vont vraiment devenir, et en fait, la figure de l'insensé va vraiment devenir celle du bouffon, le fou de cour, là, celui qu'on appelle encore aujourd'hui le Joker dans les paquets de cartes. Donc, il va vraiment avoir un juste au corps moulant, des couleurs vraiment contrastées, des couleurs en opposition. On va le voir, ben, sa massue va se transformer en espèce de marotte, donc un bâton auquel on retrouve, en haut duquel on retrouve son propre visage, donc une espèce de copie de lui-même. Qu'est-ce qu'il va avoir? Bien, évidemment, un chapeau pointu à grelot. La marotte, c'est intéressant. Puis je pense qu'il faut... Je me permets de revenir en arrière. Donc, dans le psaume 52, c'est vraiment l'insensé dit en son cœur, Dieu n'est pas. C'est vraiment la parole qui est à la base, finalement, de son acte pécheur. Puis, tranquillement, le discours, je pense, va évoluer. Puis l'insensé, le bouffon, en fait, c'est comme si la marotte incarne sa perte de folie, parce que sa perte de sens, finalement, parce que c'est avec sa marotte qu'il va parler. Alors qu'autrefois, on avait l'insensé qui regardait Dieu, qui s'opposait à Dieu. Là, le bouffon veut vraiment être en discours avec sa marotte. Donc, on a comme une transposition du discours, un discours qui est vraiment blasphématoire dans le premier. Dans le deuxième cas, celui du bouffon, un discours qui est tout aussi blasphématoire, mais qui peut peut-être également là, révéler le côté, ou qui s'approche peut-être plus du côté là, médical de la folie. Donc là, on a vraiment pas juste un insensé, on a quelqu'un qui est peut-être même conscient de sa folie ou qui va jouer sur sa folie. Puis c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'à la fin du corpus, ben, toutes les images, ou presque à l'intérieur du psaume 52, on a justement la présence non pas de l'insensé, mais du bouffon. Le bouffon qui, avec tous ces autours de bouffons que vous connaissez, qui sont les mêmes qu'on utilise aujourd'hui ou qu'on reconnaît aujourd'hui dans la culture populaire. Le bouffon, toutefois, qui est vraiment une figure, elle, issue de l'histoire aristocratique de la cour. Donc, on a vraiment la lente intégration d'un personnage de cour à l'intérieur du psautier. Alors que toutes les autres enluminures, elles vont rester les mêmes, celles du roi David. C'est sûr qu'on pourrait faire un glissement puis se demander est-ce que c'est David ou c'est un roi. Donc là, on aurait deux oppositions peut-être. Au début du corpus, plutôt l'insensé contre le roi David, puis à la fin, plutôt une opposition qui serait vraiment plus laïque, donc celle du bouffon et de son roi. Donc cette espèce d'opposition très romancée là, que tout le monde connaît.
Et bon, à part la marotte puis le gourdin, est-ce qu'il y a d'autres accessoires qui apparaissent?
Je te dirais, il y a les grelots. Je pense que ça, c'est intéressant parce que ça montre que le bouffon a vraiment un caractère là, dérangeant dans sa nature, alors que l'insensé ne l'avait pas. Ce qui montre que l'insensé, il est tout seul dans son coin, c'est réglé, il est comme au banc de la société, il est presque dans la forêt. Non, le bouffon, pardon, lui, il a des grelots, il vise à déranger. Il y a comme une volonté d'action plus définie que l'insensé, qui s'incarne également dans ses vêtements. Là. Ses vêtements sont une distinction sociale. On les voit de loin, on les reconnaît de loin, on sait qu'il a un rôle, puis ça va être celui de, justement, cette fois-ci, peut-être pas inverser la sagesse de David, mais plutôt inverser le discours du roi.
C'était pas les lépreux ou les mendiants qui avaient des cloches parfois. Ouais, c'est ça, pour dire attention.
La crécelle va être associée effectivement aux lépreux. Ouais. Les grelots aussi, oui. Donc, attention, je m'en viens. Donc, c'est ça que c'est vraiment excellent ce que tu dis. Ça rejoint l'idée de regarder, je suis présent. C'est intéressant, quand on s'intéresse à la figure du bouffon, ben, pour comprendre pourquoi il arrive dans des manuscrits qui sont vraiment uniquement là, des manuscrits, des mises en scène, des représentations, je m'excuse, du psaume 52, donc vraiment toujours associé avec le texte sacré, faut vraiment le voir aussi, faut le réinsérer dans une histoire plus globale là, de l'aristocratie qui prend de plus en plus de pouvoir à cette époque-là. À cette époque-là, les aristocrates vont commander également de plus en plus de manuscrits qu'ils vont modifier ou faire modifier à leur guise, donc ils vont commander à leur guise. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, surtout que c'est intéressant parce que si on met un bouffon dans notre manuscrit, On associe l'insensé au bouffon. Nous, on s'associe à qui? On s'associe à David. Donc, il y a une manière un peu là, de dynamiter, là, ou dynamiser plutôt, de faire exploser son statut social en s'associant finalement à ces figures-là.
Puis sur le plan de la gestuelle, bon, qu'est-ce qu'il fait ce bouffon-là, à part, il montre Dieu?
Le bouffon, qu'est-ce qu'il fait?
Bouffon ou l'insensé?
Je vais utiliser insensé pour parler de notre premier insensé, puis bouffon pour parler du deuxième. Les deux ont des gestuelles qui sont similaires. Généralement, ils vont être dans une attitude un peu là, de torsion. Donc, c'est comme s'ils... des jambes, il dansait, donc comme si la jambe droite passait devant la jambe gauche, mais en même temps, donc qui marchait dans un sens, mais en même temps, ils vont regarder dans le sens opposé. Donc, on a vraiment une torsion qui traduit peut-être justement toutes les tensions que renferme cette figure-là, mais aussi le côté peut-être négatif là, de cette figure-là. Une position strictement positive, là, par excellence, serait de quelqu'un assis sur un trône de manière frontale. Je te dirais, là, dans la plupart des compréhensions des images médiévales. Donc là, on est vraiment dans une position complètement à l'envers. On est dans une position instable, une position dynamique, une position de torsion.
Si le corps est tordu, bien, l'esprit est tordu aussi.
Absolument. Hein? Oui. Donc, on pourrait reparler là, de phénoménologie, de cette étude de, justement, le corps témoigne de l'esprit. Oui, absolument. Donc, je te dirais que c'est la principale gestuelle qui démarque l'insensé, mais en fait, que partagent l'insensé et le bouffon. Quelque chose qui les distingue, toutefois, ça va être la présence d'une sphère dans la représentation des insensés. Donc, au début du corpus, les figures plus hautes, plus anciennes, vont mordre dans une espèce de...
Ça ressemble à un pain.
Ça ressemble à un pain. Ça ressemble parfois même à une hostie parce qu'on retrouve vraiment la petite croix qu'on va... Puis la petite croix est ex-pointée, donc avec les quatre points dans les quatre corps qu'on retrouve encore sur les hosties aujourd'hui. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut associer plus à la lecture. Je te dirais peut-être plus biblique du psaume dans lequel on lit que... l'insensé dévore mon peuple. C'est ce qu'on lit un peu plus loin dans le psaume 52. Donc là, ça montre qu'au début du corpus, on est vraiment plus dans cette lecture d'un sens biblique, d'un sens chrétien, d'un sens moral, alors que vers la fin, on est plus vers peut-être une critique sociale, une inversion sociale, une critique peut-être plus du côté de l'aristocratie également, plus qu'une critique à l'intérieur de l'Église.
Mais en parlant de l'aristocratie, on va entendre une chanson qui est issue de cette culture aristocratique de Guillaume de Machaut, « J'aime sans penser ».
Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais.
Est-ce que ça peut attendre, ces 3600 secondes d'histoire?
Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans.
Alors, de retour à 3600 pour cette émission sur la folie psalmique. Alors, on parlait justement de cette figure du bouffon, bon, qui n'est pas tout à fait pareil quand même, hein, parce qu'il y a des bouffons qui sont pas nécessairement insensés, j'imagine.
Absolument. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, le bouffon est un personnage social qui a sa cohérence puis qui a sa place dans la société. Donc, je le mentionnais tantôt un peu là, en parlant de folie presque volontaire du bouffon. C'était des personnages qui étaient entretenus par les cours médiévales et à très grands frais. Et c'était également des personnages, et on en connaît plusieurs, qui étaient les bouffons officiels de certains rois. C'était leur profession. Ils avaient perfectionné un art, oui, de l'humour, oui, de la parole, parfois là, de toutes sortes de jonglerie, mais je reste plutôt du côté de la parole, parce que je pense que c'est vraiment de là que découle son sens à ce personnage-là. Donc, vraiment des gens qui se sont investis dans ce personnage. Puis, pourquoi on l'associe, je pense, au fou, c'est parce que c'est le fait que ces personnages-là étaient prétendument fous qu'on leur accordait le droit d'avoir une parole sans filtre. Donc, c'est comme un peu les mêmes excuses là, qu'on avait au départ, les mêmes catégories de la folie.
Comme Danny Turcotte.
Ouais, voilà. Donc, c'est par le fait qu'ils sont fous qu'ils peuvent avoir cette liberté ou cette parole débridée un peu. Donc, je trouve que c'est intéressant de le parler parce que, encore une fois, ça montre à quel point la logique de ces deux personnages-là reste cohérente. Puis c'est juste qu'il y en a un que c'est dans la société réelle, puis l'autre, ça va être vraiment plutôt dans l'ordre du moral, de l'immoral. Mais les restes, donc, vraiment, là, les deux figures sont des figures ambivalentes qui doivent être perçues comme des contre-modèles, donc les négatifs de figures positives, David ou le roi, comme je le mentionnais tantôt.
Et en regardant les différentes images là, que tu as reproduites dans ton mémoire de maîtrise, on remarque quand même beaucoup de similarités, oui, entre ces images-là. Bon, certaines qui se démarquent un peu plus, mais tu sais, ça nous fait demander comment ces représentations-là circulaient? Est-ce qu'on s'échangeait des manuscrits entre monastères? Pourquoi certaines figures vont peut-être plus se ressortir? Est-ce que, bon, telle copie se décide, ben moi, je vais mettre mon petit grain de sel?
C'est une bonne question. Les manuscrits ne voyageaient pas beaucoup. Les manuscrits font partie du trésor là, d'une église, d'une cathédrale ou d'un monastère. Donc, généralement, c'était vraiment des objets qui étaient chéris puis qui ne voyageaient pas beaucoup. Toutefois, je pense qu'on peut vraiment voir un peu là, la série de psaumes, la série d'images associées avec les psaumes. C'est vraiment comme un peu une formule toute faite, apprise dans les ateliers de copistes et recopiée. On sait que les ateliers de copistes, puis on s'en rend vraiment compte, c'est intéressant, là, plus vers le 15e siècle, c'est comme un peu là, un livre de tatouage. Là. Mm-hmm. Le commanditaire arrivait puis disait « Choisis parmi ces modèles ». C'était presque ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme une formule gagnante apprise et répétée par les copistes, mais surtout un souci peut-être là, de cohérence, justement en raison là, de ce côté didactique du livre des psaumes, d'une lecture précise, d'une lecture également qu'on ne veut pas trop pervertir parce que c'est des novices qui voient ces images-là, c'est des aristocrates qui voient ces images-là. Donc, on va rester dans des images qui sont, je te dirais, assez littérales, très près finalement du sens premier du psaume. Donc, je pense que c'est ce qui explique la grande uniformité parce que tu l'as dit, là, c'est vraiment uniforme. C'est vraiment presque... en fait, c'est une série d'images qu'on pourrait même qualifier de cristallisées pendant ces 300 années-là, à l'exception de la figure du bouffon qui, elle, va vraiment là, vivre ce revirement de situation-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce revirement-là se fait pas juste en France, mais ça arrive également dans notamment les traditions picturales, par exemple, là, plus de l'Italie ou du sud de l'Europe, que j'ai moins étudié, puis dans lesquelles aussi, il faut le dire, là, la série de psaumes va être différente. Mais je pense que c'est pour ça que c'est important, dans un mémoire comme celui-là, d'avoir circonscrit là, le corpus à vraiment une unité géographique, parce qu'on voit que ces images-là voyageaient ou avaient une cohérence à l'intérieur d'un royaume, par exemple le royaume de France, mais ça ne sera pas du tout les mêmes logiques ailleurs. Donc, si on s'intéressait... Par exemple, il y a un manuscrit que j'aurais tellement voulu... étudié ces manuscrits produits en République tchèque actuelle, puis c'était complètement différent. Là, on avait vraiment plus des figures animales, donc on pouvait peut-être aller... Même chose aussi dans les psautiers irlandais que j'ai vus. Donc là, on allait vraiment plus dans le symbole, puis moins la représentation directe du psaume. Donc, je ne sais pas à quel point ces images-là ont vraiment voyagé au-delà des frontières, mais ce qui est certain, c'est qu'une image qui a énormément voyagé, c'est celle du bouffon. Donc, à travers les frontières et à travers les âges.
Mm. C'est un défi de comprendre ces images-là qui ont été conçues dans un contexte de totale étrangeté pour nous. Là.
Ah, absolument.
Et puis, j'imagine, toi, il a fallu que tu te réfères quand même à certaines études là, pour comprendre toute cette symbolique-là.
Absolument. Puis c'est intéressant ce que tu nommes, parce que je pense que c'est un des pièges qu'offrent les images médiévales, les enluminures en plus. C'est cute, une enluminure, ça fait comme 3 cm par 4 cm, c'est tout doré, les couleurs sont magnifiquement préservées. Le danger, c'est qu'on a l'impression qu'on évolue dans le même bouillon culturel que ces images-là, alors que c'est faux. L'Occident médiéval est une société qui a vécu et qui a disparu. On peut en voir les traces aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter ces images-là. Faut faire attention. Puis c'était la même chose également avec la folie. Moi, je me suis, en étudiant ce sujet, je me suis dit, je vais étudier des figures marginales. Puis non, c'est pas une figure marginale, l'insensé. C'est une figure qui a son sens, puis que par son intégration dans la société, souligne justement d'autres figures qui lui sont opposées, qui sont des figures positives. Donc, c'est un des pièges, je pense, avec toutes les images médiévales, c'est de les considérer de la même manière. Puis c'est aussi une critique qu'on entend souvent, que j'entends même tout le temps avec mes élèves lorsque je leur montre des bâtiments, des représentations médiévales. Le premier réflexe, c'est de dire, ben voyons, ils sont donc dégénérés comparativement à ce qu'on faisait à l'Antiquité. Non. Le but n'était pas de bien représenter au sens classique du terme de créer quelque chose de beau. Non, on va plutôt aller jouer dans les symboles. Non, on n'hésitera pas à déformer les perspectives, justement plutôt pour raconter une histoire à l'intérieur de ces images-là. Donc, je m'excuse, j'ai perdu le sens de ta question initiale, parce que je me suis laissé emporter.
On parlait de l'étrangeté de cette époque-là.
Ouais.
C'est un peu comme un anthropologue, justement, qui se rend dans une société complètement différente de la sienne. Et puis là, il faut qu'il apprenne les codes de cette culture-là. Et puis là, bon, comme c'est dans le passé, il faut on fait comme on peut.
Exactement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis je pense qu'aussi, c'est pour ça que c'est important, encore plus important avec ces images-là, de les réinsérer peut-être justement dans une histoire des psaumes, une histoire de l'usage des psaumes, une histoire de l'usage des manuscrits, pour vraiment comprendre dans quelle dynamique ces images-là s'insèrent. C'est pas juste un produit qu'on peut prendre puis questionner. C'est pour la même raison également que dans mon mémoire, oui, j'ai mon corpus de 154 images dont on a parlé, mais j'ai aussi une quinzaine de manuscrits, finalement pas une quinzaine, mais environ 12 manuscrits. J'en ai consulté plusieurs, pardon, mais que je me suis dit, OK, je vais questionner toute la série des images. Il faut la réinsérer à l'intérieur des objets dans lesquels elle était utilisée, ces images-là. Je trouve que ce que tu parles l'aspect anthropologique est tout à fait intéressant pour comprendre quelle est la pertinence sociale de ces images-là. Ces images-là sont un reflet de la société qui les a créées, pas juste une image comme on pourrait, nous, aujourd'hui, la définir. Tu as dit au début que l'art était omniprésent dans la société de l'Occident médiéval. C'est vrai, mais pas au sens où on conçoit l'art aujourd'hui. Puis oui.
Non, il n'y avait pas de musée.
Non, c'est ça, il n'y avait pas de musée. Puis on ne peignait pas une œuvre simplement pour l'accrocher, puis la regarder, puis la trouver belle. Ces œuvres-là avaient une logique, des logiques qui s'activaient lorsqu'on les regardait, qui s'activaient lorsqu'on récitait, par exemple, le psaume 52. Il y a des études très intéressantes que j'ai lues, justement, qui disaient que si tu chantes le psaume 52, tu vas dire que Dieu n'existe pas. Tu vas faire comme l'insensé qui le dit, puis tu vas dire cette parole-là. Donc, il y a quelque chose qui s'active lorsqu'on va prononcer ce psaume-là, on devient comme l'insensé, on devient comme ce contre-modèle, puis on réalise à quel point c'est grave ce qu'on vient de dire, puis à quel point on ne veut pas devenir ce personnage-là. Donc, la logique de ces images-là, des images médiévales, je pense, ne peut vraiment pas être utilisée par le seul... peuvent pas être analysées par le seul angle de l'histoire de l'art traditionnel. Je pense que, comme tu l'as dit, il faut aller vers une histoire sociale des images, une anthropologie des images, une sociologie également des images, si on veut, en faisant, en plus, comme tu l'as mentionné, en faisant attention de ne pas tomber dans des erreurs. Comme tu l'as dit, on ne peut plus étudier cette société-là de manière complète. Il faut faire attention à ne pas projeter nos concepts psychologiques aussi ou de santé mentale pour pouvoir comprendre ce sujet-là. Donc ça, ça a été un défi aussi. Puis je reconnais à plusieurs endroits là, dans mon mémoire avoir eu de ces biais de contemporains là, du 21e siècle. On n'en est pas exempt.
Puis une de ces logiques qu'il faut vraiment comprendre aussi, dont tu as souligné l'importance, c'est cette logique de binarité, là, d'opposition qui est importante au Moyen Âge.
Vraiment. Puis ça, ben, c'est vraiment quelque chose qui a suivi là, tous les le deuxième, troisième chapitre de mon mémoire. C'est vraiment, comme je l'ai dit, l'insensé est une figure antithétique de David. Le bouffon est l'antithèse du roi, du bon roi. Puis ça, il faut vraiment le voir, il faut vraiment le réinsérer, justement, pas juste dans la logique là, des images médiévales, mais vraiment dans la logique sociale de l'Occident médiéval, qui est une société qui s'est vraiment là, efforcée de créer des couples modèles et contre-modèles. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est ce qu'on appelle les binômes antinomiques là, dans les études médiévales. Donc, on cherche à rendre cohérent par cette association des concepts qui sont a priori antagoniques. Celui dont on entend le plus parler, qui est un bon exemple pour l'expliquer, c'est l'antithèse entre corps et esprit. Donc, ça traverse toute l'histoire chrétienne. Donc, l'esprit piégé dans un corps. Donc, on est dans deux éléments antithétiques. Un hyper valorisé, l'esprit. L'autre hyper dévalorisé. Pas toujours, mais moins valorisé, le corps. Donc, je pense que c'est vraiment là-dedans qu'il faut réinsérer la figure de l'insensé. Et par opposition, David, on n'a pas le choix de les conserver les deux ensemble. L'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est aussi une manière de définir dans des catégories claires les limites du bien et du mal. David, c'est bien. L'insensé, c'est mal. Donc, on est quand même dans une société qui cherche à établir un peu, là, intégrer la norme, mais également là, définir qu'est-ce qui ne peut pas rentrer dans cette morale-là. Puis je vais me répéter, je m'excuse, mais dans cette logique-là, la figure du bouffon et de l'insensé, oui, sont des figures négatives, mais servent à positiver toutes les figures qui les entourent. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut... Puis c'est vrai ça pour plein d'éléments dans la société médiévale. Puis c'est encore quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Là. En tant que prof, je suis pêcheur de ça, mais on me donne un contre-exemple pour pouvoir mieux définir le concept. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette figure-là.
Ben c'est ce qui met fin à notre émission. Merci beaucoup, Benoît Durand, d'avoir été des nôtres. C'est rare qu'on reçoive des médiévistes, entre autres.
Ah, ça fait plaisir. Vous devriez en savoir plus,
ben oui.
On est smart.
Alors, ben, on va se laisser en musique avec un extrait des Carmina Burana, donc qui ont été notés par des moines allemands au 13e siècle, donc avec cette chanson à boire, « In taberna quando sumus ». Bonne soirée.
Navigantibus,
undecies pro discordantibus,
necessies pro penitentibus,
credeties pro iter agentibus.
Tanto papa, quanto rege vivum, commessine lege. Vivit vera, vivit vero, vivit vile, vivit vero.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Voyons, comment ça, ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
My brain.